l'actualité.
Merci, bonne journée à vous Xavier Besson.
Orange Monnaie, transfert d'argent et paiement de facture, simple, rapide, économique, vous propose appel sur l'actualité. Appelez-nous, exprimez-vous.
33 9 693 693 70.
Juan Gomez.
Ebola a une longueur d'avance sur nous. Voilà l'avertissement lancé avant-hier par le chef de la mission des Nations Unies chargé de coordonner la lutte internationale contre Ebola. Nous allons en parler ensemble durant les 20 prochaines minutes, d'autant que les dernières estimations de l'OMS font froid dans le dos. Elles tablent sur 10 000 nouveaux cas par semaine en Afrique de l'Ouest à partir du mois de décembre. L'épidémie, on le voit bien, est donc hors de contrôle, loin d'être sous contrôle. Il faut donc agir vite. D'ailleurs, hier, Barack Obama et François Hollande ont appelé la communauté internationale à faire preuve de détermination pour répondre à cette crise sanitaire. L'inquiétude, on le voit, gagne du terrain. Les dirigeants occidentaux craignent une contagion dans leur pays. Aux États-Unis, un deuxième cas de transmission d'Ebola a été signalé. La France a décidé hier, après les États-Unis et la Grande-Bretagne, de mettre en place des contrôles aux aéroports à l'arrivée des vols en provenance des pays frappés par le virus. Même l'Amérique latine, qui n'est pas encore touchée, se réunira lundi prochain pour préparer la riposte. Alors que pensez-vous de cette mobilisation internationale? Avez-vous l'impression que les pays occidentaux en font assez pour stopper l'évolution d'Ebola en Afrique de l'Ouest? Et dites-nous, sur le continent africain, quels sont les moyens mis en place dans votre pays? Vous nous rejoignez, vos témoignages évidemment au 33 9 693 693 70 sur les réseaux sociaux, Twitter et Facebook. Facebook, l'adresse officielle, appel sur l'actualité RFI. Bonjour Michel.
Bonjour.
Vous êtes à Conakry en Guinée,
oui.
Et vous avez l'impression, vous, sur place, d'assister à une véritable cacophonie.
Oui. Bonjour, Juan Gomez, et merci pour m'avoir donné la parole. Et quand la lutte a commencé, le gouvernement semble faire une politique pour essayer de dédramatiser la situation. Et l'OMS est en train de faire la politique des chiffres. Et nous avons assisté à la guerre des chiffres. Et petit à petit, maintenant nous sommes en train de nous mettre devant la réalité où la maladie a dépassé maintenant.
Ouais. Enfin, le pays se mobilise. Vous avez depuis maintenant de nombreux mois la présence de Médecins Sans Frontières. Les équipes sont sur place. C'est l'ONG peut-être qui, la première, a réagi pour faire face à l'évolution d'Ebola.
Alors, comme il n'y a pas de médicaments ni de vaccins, c'est une affaire de communication, mais de communication faite d'une manière disciplinée, raisonnée et programmée. Alors, et la communication dans un milieu où la maladie n'est pas encore déclarée n'est pas la même chose que la communication dans un milieu où la maladie est déjà déclarée. Alors, et il faut doter les centres de santé d'éléments nécessaires et suffisants. Par exemple, les lave-mains, les gants, les masques et les changements des habitudes. Des médecins qui, par paresse, n'utilisent pas les gants ni les masques.
Ça existe encore aujourd'hui, Michel, 10 mois après l'apparition d'Ebola en Guinée?
Il y en a encore. Moi-même, je suis parti dans un hôpital. On devait m'arracher la dent. Le médecin a voulu travailler avec sans gants. Je lui ai dit, mais monsieur, vous êtes fou?
Effectivement.
Est-ce que les gens plaisantent et il faut vraiment une politique déterminée et où même il faut sanctionner des gens. Par exemple, les gens qui crachent partout dans la rue, les gens qui font des ablutions partout sur les trottoirs. Or, c'est d'abord les mesures d'hygiène. Quand vous allez dans les marchés, vous avez peur. Il n'y a aucune hygiène dans les marchés. Il y a des tas d'ordures dans les marchés et on dit qu'on combat l'Ebola. L'eau potable courante fait défaut. Alors qu'il faut se laver régulièrement les mains avec l'eau et du chlore et l'eau avec l'eau de Javel.
Ouais. À votre niveau, Michel, est-ce que vous avez changé votre comportement?
Oui, dans mon établissement, j'ai 4 lave-mains pour 225 élèves.
Ah, vous êtes
Je suis en train de faire la formation de mes professeurs, de mes élèves, pour pouvoir sécuriser mon établissement.
Vous êtes directeur d'école?
Oui, je suis directeur d'un centre de formation professionnelle.
D'accord. Michel, merci de ce témoignage. Merci à vous, bon courage. J'en profite d'ailleurs pour vous rappeler que le site internet d'RFI vous propose une infographie « Comprendre Ebola en 7 questions ». C'est quoi Ebola? Pourquoi Ebola se transmet aussi rapidement? Comment éviter la contamination? Comment un malade est-il pris en charge? Pourquoi l'OMS a autorisé des traitements en phase de texte, etc., etc. Voilà, tout ça est très très bien expliqué, simplement expliqué avec des mots compréhensibles, véritablement par tout le monde, donc n'hésitez pas, RFI.fr, Ebola en 7 questions. Bonjour Awa.
Oui, bonjour Juan, merci de me prendre sur votre antenne.
Vous êtes à Berlin. À Berlin, où oui, vous avez dit au standard, il y a déjà un début de psychose.
Oui, il y a une psychose et une paranoïa qui sévit dans les pays occidentaux, à mon avis. Et en tant que médecin, permettez-moi de vous de confirmer donc ce que votre interlocuteur précédent oui. Sur ses commentaires. Au fait, le problème fondamental, c'est les infrastructures de santé qui sont médiocres dans la plupart des pays africains. Mais sinon, il faudra mettre les choses dans le contexte. Ebola est certes est un virus, certes c'est une épidémie, mais pas la première que l'humanité a connue. On a connu la grippe aviaire, on a connu le virus de Marbourg qui a fait des ravages aussi en Allemagne.
Bien sûr, Awa. Mais voilà. Hier, les responsables occidentaux ont dit qu'il s'agissait de la plus grave urgence sanitaire de ces dernières années.
Oui, effectivement, c'est une urgence sanitaire, mais remettant les choses dans le contexte, c'est que cette urgence sanitaire, moi je vous dis que la malaria tue plus tous les jours en Afrique qu'Ebola. Il y a des milliers de morts sur le continent, c'est connu. Mais pourquoi l'Occident n'est pas intéressé? Parce que tout simplement, les recherches, les investissements dans les recherches sur la malaria, par exemple, ont été dans la plupart des pays sont arrêtés parce que Ebola maintenant est une priorité parce que elle est facilement contagieuse et elle est exportable.
D'ailleurs, on l'a vu en Allemagne, puisqu'un employé soudanais de l'ONU qui est arrivé la semaine dernière en Allemagne, il venait du Liberia, il est mort cette semaine.
Oui, il est mort parce que c'est une maladie virale, comme toutes les maladies virales qu'on ne peut traiter que symptomatiquement. Donc il n'y a pas de médecin, il n'y a pas de vaccin, il n'y a pas de médicament. Et donc la seule différence entre une épidémie en Afrique par rapport à l'Europe, ce sont les infrastructures sanitaires et l'éducation. Et il faudra retourner à la case de départ. Il ne faut pas attendre les épidémies pour maintenant courir dans tous les sens et dire au secours. Il faudrait que les États africains, fasse une priorité absolue, que la santé soit une priorité et l'éducation soit une priorité absolue. Parce que le seul danger de l'Ebola par rapport à d'autres virus, c'est que c'est le mode de transmission qui est très superficiel. Donc il suffit d'être en contact avec un malade par sa sueur ou juste serrer sa main. Donc c'est un problème de base qui est connu en Afrique. Et moi, je suis complètement aberré qu'on fait comme si c'était un virus qui était différent d'autres. Enfin, oui.
C'est un virus vu l'ampleur. Ce n'est pas la première épidémie d'Ebola sur le continent africain, mais c'est la plus grave que l'Afrique ait connue. On va donner la parole à d'autres auditeurs. Merci Awa d'écouter RFI à Berlin, notamment sur la FM et sur internet RFI.fr. Un autre témoignage, celui de Cathy. Elle nous appelle d'Abidjan. Bonjour Cathy.
Bonjour Anne Gomez.
Bienvenue.
Et bonjour à tous les auditeurs de RFI.
On vous écoute.
Moi, je pense qu'il faut plutôt mettre l'accent sur la communication. D'accord? Parce que, par exemple, en Côte d'Ivoire, ici, Madame la ministre de la Santé fait nez et pieds pour passer les messages. Et les opérateurs de téléphonie mobile adhèrent. Chaque jour, on reçoit les messages à tout moment sur les téléphones. Et à tel enseigne que même si ça ne te dit rien au départ, parce que tu te dis que bon, c'est une malédiction, ça dépend de Dieu, des choses comme ça, mais quand à force de recevoir le message, tu finis par adhérer à la vie, à l'appel en fait. Et moi, ça a changé mon quotidien personnellement. Mes enfants ils étaient à l'école, arrivés à la maison, tant qu'ils ne se départaient pas, les mains, ils ne se disent pas bonjour. Mon fils de 5 ans, il passe le message à l'école, à ses amis. Quand un camarade veut le toucher, lui, je dis non, il faut te laver les mains d'abord, on ne fait pas ça maintenant.
C'est-à-dire que vous forcez, Cathy, vos enfants à se laver les mains plus plusieurs fois par jour et vous déconseillez à votre fils de saluer ses camarades à l'école, avec la main.
À l'école, oui. Oui. Et il a le bactéricide dans son sac. À tout moment, à 10h à la récré, il se nettoie les mains, il passe le produit à ses amis, il se nettoie les mains. Je pense que tous les parents éprouvent cette attitude-là et voilà pourra être contenu. Parce qu'il ne faut pas passer dessus comme si ce n'est rien. C'est réel, c'est là et ça saisit. Donc il faut d'abord épouser les mesures que les ministères de la Santé proposent d'abord. Et puis ensuite adhérer à la communication, surtout la communication, parce que si les messages, vraiment, ça passe tout le temps. Et je pense que ça joue quand même, ça agit.
Bien, bah merci à vous, merci Cathy de ce témoignage. D'Abidjan, où il est 8h50, 33 9 693 693 70, Gabriel, bonjour.
Bonjour Juan.
Vous êtes au Gabon, vous nous appelez de Libreville. Vous dites que le Gabon a déjà été confronté à Ebola et vous souhaitiez justement apporter un témoignage sur la façon dont, par le passé, le pays a réagi face à l'épidémie.
Oui, merci Juan. Nous avons donc malheureusement cette expérience-là de la maladie. Et je suis quelque peu étonné de la réaction d'Awa, qui est médecin, qui devrait beaucoup plus donner des conseils. Bon, elle est en Allemagne, donc elle ne connaît pas forcément les réalités en Afrique. Bon, le Gabon s'est mobilisé, parce que quand il y a Ebola dans un pays, nous connaissons les conséquences de cette maladie et le taux de létalité. Nous avons, en 20 ans, au moins quatre fois cette maladie sur le pays, près de 150 victimes. Donc on prend les précautions et l'OMS lance aujourd'hui un appel sur les besoins. Parce que ce qu'on a vu sur les missions envoyées spéciales à Monrovia, c'est vraiment un cas de multiplication de la contamination d'Ebola qui est là tout simple, parce que la promiscuité telle qu'on l'a vue, c'est un facteur multiplicateur.
Ouais, Monrovia, pour ceux qui ne connaissent pas, ce sont 1 million d'habitants vivant les uns contre les autres, essentiellement dans des bidonvilles. Donc forcément, les gens se frôlent tout au long de la journée, et c'est le meilleur moyen, on le sait, malheureusement, que le virus se transmette de citoyen en citoyen. Vous parliez tout à l'heure de fonds. Vous savez que vendredi dernier, l'ONU a reconnu que l'appel de fonds $1 milliard demandé pour lutter contre Ebola bien été financé qu'à hauteur de 25%. Vous avez l'impression que c'est suffisant ou pas?
Non, Juan. Moi, je ne pense pas que ça soit suffisant. Même les fonds en tant que tels, les besoins sont beaucoup plus des besoins matériels. Il faut des lits. Aujourd'hui, on réclame des lits, on réclame des équipements pour traiter les victimes, on réclame des véhicules, des ambulances, on réclame des équipements de protection, des produits virucides, c'est-à-dire aujourd'hui, il faut aller au concret. Vous envoyez, même 1 milliard de fois, vous envoyez à Monrovia, qu'est-ce qu'ils vont acheter avec? Ces équipements ne sont pas forcément disponibles. Ouais. Donc, il faut endiguer la maladie en isolant les lieux de contamination, en isolant les malades, et aussi en milieu nosocomial. Parce qu'aujourd'hui, les mêmes hôpitaux qui parfois reçoivent ces malades-là, les malades contaminés par Ebola, reçoivent aussi d'autres malades. Nous voyons ce que ça fait.
Ça, c'est un point effectivement très important et vous avez raison d'insister là-dessus. Merci Gabriel. La réponse internationale a été pour le moment plus lente que le rythme de transmission de la maladie. C'est ce qu'a déclaré il y a quelques jours le président de la Sierra Leone. Bonjour Patrick.
Bonjour Juan.
Vous êtes médecin, vous nous appelez de Kisangani et vous souhaitiez réagir et donner votre sentiment par rapport à la mobilisation internationale.
Oui, absolument, Juan. Mais avant tout, permettez-moi de réagir en Europe, en Allemagne, pour lui dire quand même que la RDC est un meilleur exemple de coordination de la riposte. La RDC a connu 7 vagues d'épidémie et a su mieux le contenir. Par rapport à la communauté internationale, je voudrais dire qu'il y a quand même 2 points à améliorer, notamment le niveau de coordination de la riposte qui ne correspond pas toujours à l'ampleur de l'épidémie. Et 2, la proportion de personnel médical et paramédical qui est affecté en Afrique de l'Ouest, et ce personnel expérimenté a une proportion basse. Et le personnel est démotivé. C'est pourquoi je pense qu'il faut à court terme qu'il y ait une planification intégrée. Il faut éviter que les partis, le pays évolue en ordre dispersé. Mmh. Et puis, il faut un recrutement et une affectation de personnel expérimenté. Il y a des médecins et des infirmiers expérimentés en RDC qui chôment. Et il faut payer régulièrement la rémunération de ceux qui sont sur terrain. Ouais. Ça, c'est à court terme. Mais à long terme, je pense qu'il faut une extension des centres de contrôle de prévention des maladies ou une extension des centres de recherche au cœur de l'Afrique, je donne l'exemple de Kisangani ou ailleurs, pour permettre que cette coordination de la recherche puisse agir en amont.
Bien sûr. Vous avez raison. Il faut quand même rappeler aux auditeurs que votre pays est concerné par Ebola, puisqu'une épidémie de moindre ampleur qu'en Afrique de l'Ouest sévit sur place depuis cet été. On dénombre 49 morts. En tout cas, ces jours-ci, l'OMS a salué l'immense travail, je reprends les propos, réalisé par Kinshasa et ses partenaires dans la lutte contre l'épidémie Ebola, qui frappe donc le nord-ouest de votre pays. Merci Patrick. Merci de ce témoignage. Bonne journée. Mamadi, vous nous rejoignez, vous êtes à Abidjan, bonjour.
Bonjour Juan, comment ça va?
Ça va, je vous remercie. Vous pointez du doigt, vous, l'irresponsabilité des chefs d'État africains.
Bien sûr, Juan, je le dirai clairement, parce que vous savez, il y a un ensemble régional qu'on appelle l'Union africaine, il y a également des ensembles sous-régionaux, un lieu MOA, la CEDEAO. Vous voyez, quand la riposte à apporter à Ebola a commencé, il y a eu la même mauvaise gestion de la crise par rapport, c'est la même manière que les autres crises sont gérées en Afrique. C'est la même chose que nous avons constaté en ce qui concerne le virus, la gestion du virus Ebola. Vous voyez, c'est vrai qu'il y a de part et d'autre des efforts qui ont été faits par les États, mais lorsqu'il il a eu la nécessité pour eux de fermer les frontières, on a vu que cela n'a amené à rien une amélioration dans la lutte, parce que les frontières étant en Afrique poreuses, quand on dit qu'on a fermé les frontières, ça veut dire tout simplement qu'elles ne sont pas fermées, parce qu'il y a des sentiers ici et là, et les gens...
Bien sûr qu'elles sont poreuses, Mamadi, tout le monde le sait, personne n'est dupe, mais sur la démarche en tant que telle, est-ce que vous l'approuvez? Est-ce que vous comprenez, par exemple, que vos autorités, les autorités ivoiriennes, aient décidé de fermer les frontières avec la Guinée?
Non, je suis d'accord avec la batterie de réponse qu'a mise en place le gouvernement ivoirien en Côte d'Ivoire, je ne suis pas du tout d'accord avec la fermeture des frontières. Parce que pour moi, on a dit que nous devons passer de la CEDEAO des États à la CEDEAO des peuples. Pour en arriver là, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut tout simplement mutualiser les ressources humaines, les ressources financières et les ressources morales afin de faire face. Et on ne peut pas mieux lutter contre le virus Ebola sans mutualiser nos ressources. C'est ce qu'il fallait faire, et cela n'a pas été le cas. Et bon, aujourd'hui, on dit qu'en Côte d'Ivoire, il n'y a pas de... le virus Ebola n'existe pas. C'est bien possible, parce que le gouvernement a véritablement mis en place une batterie de mesures que nous connaissons, la formation des administrateurs civils et sanitaires dans les régions.
Il y a eu, c'est vrai, une forte mobilisation de la part des autorités. C'est vrai qu'elles ont pris les devants face à Ebola. Tout à l'heure, je ne sais plus quelle était l'auditrice qui nous appelait d'Abidjan et qui nous disait effectivement qu'elle était satisfaite des mesures mises en place par la ministre de la Santé. Francis, vraiment très rapidement pour terminer. Bonjour Francis.
Oui, bonjour, Yohan.
À Brazzaville, on vous écoute.
Alors, oui, merci, Yohan. Je voulais juste, en fait, prendre appui sur les propos de ce dernier auditeur. Il a parlé de mutualiser les efforts, évidemment. Je pense que s'il y a mobilisation de la communauté internationale, par contre, on assiste à une certaine cacophonie, parce qu'on n'a pas senti un véritable plan d'attaque ou encore de riposte concertée. Je n'ai pas vu les États, je n'ai pas vu les organismes internationaux s'asseoir autour d'une concertation pour définir les moyens, définir les modalités et définir un calendrier d'action concerté avec des objectifs à atteindre. C'est plutôt chaque organisme, chaque État qui, à sa façon, essaie de dégager comme ça une initiative, de s'engager dans une démarche.
Donc il faut dites-vous, mutualiser la mobilisation. Il faut effectivement, on va dire, une sorte de quartier général, et je parle là sous le contrôle de Claire Hédon qui est déjà dans ce studio.
J'allais dire, c'est le travail de l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, dont on peut effectivement peut-être un peu critiquer le travail en ce moment.
Merci à tous de votre fidélité. Demain, on se retrouve évidemment pour la Libre Antenne. Soyez nombreux. Bonne journée.